Vous écoutez
RMC.
Il est 1h32 du matin dans la nuit de l'after qui continuera jusqu'à 6h tout à l'heure. À 6h d'ailleurs, il y a un match, la Tunisie qui affronte le Japon. Et puis dans maintenant 28 minutes, Équateur Curaçao, ce sera sur RMC bien sûr. Pour l'instant, ici à New York, 19h32, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Maxime Chano est là et Edgar Grollo nous rejoint. Edgar Grollo qui suit l'équipe d'Espagne qui demain joue face à l'Arabie Saoudite. Salut Edgar.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Salut Edgar.
Conférence de presse de veille de match aujourd'hui. L'Espagne, alors il y a un problème en Espagne, c'est qu'en fait on ne marque plus de but. Depuis 289 minutes en Coupe du Monde, l'Espagne n'a pas marqué.
C'est incroyable.
C'est vrai que c'est dingue.
Ouais. Non mais au-delà de ça, au-delà de ce problème-là, Gilbert.
Mais pour Didier Deschamps, c'est les favoris.
Non mais on en avait parlé la dernière fois, ils ont gagné 3 matchs depuis 2010 en Coupe du Monde. Trois matchs depuis 2010 face à l'Australie, à l'Iran et au Costa Rica. Donc il va falloir réactiver la machine au bout d'un moment.
Bah demain c'est l'Arabie Saoudite. Si là ils n'y arrivent pas demain, on va commencer à sérieusement.
Si tu n'y arrives pas demain, déjà tu commences à t'inquiéter par rapport au dernier match, parce que faut rappeler que leur dernier match de poule c'est l'Uruguay. Donc on pensait qu'ils allaient monter tranquillement en puissance, battre le Cap-Vert, après jouer l'Arabie Saoudite, après jouer l'Uruguay. Et là tout de suite ils se retrouvent dans une situation un petit peu différente. Alors tu le disais, on a vu, on était en conférence de presse tout à l'heure, en zone mixte aussi, zone d'interview avec les joueurs, et on a pu échanger notamment avec Aymeric Laporte en français. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'y avait aucune inquiétude et qu'il fallait surtout pas revoir les plans de départ côté espagnol. Écoutez.
Le Cap-Vert, on a essayé de jouer notre football, celui qu'on a toujours joué. On n'a pas eu de réussite dans les cages, c'est ce qui nous a perturbé. Il faut essayer de continuer jusqu'au bout, de marquer ce but qui nous aiderait pour justement développer notre jeu.
Ce qu'il nous disait aussi, c'est il faut surtout rien changer, hein, parce que ça, ce serait une erreur. Par contre, Luis de la Fuente a avoué, à force qu'on lui pose la question, quand même que les joueurs étaient atteints quelque part. Alors atteints, pas dans un sens négatif, mais en tout cas qu'ils avaient lu et qu'ils étaient conscients de toutes les critiques qu'il y avait pu avoir en Espagne ces derniers jours, parce qu'en Espagne, ils ont été très critiqués après le premier match. Et lui, il avoue quand même que c'est une motivation supplémentaire pour les joueurs.
Soyons honnêtes, si on avait gagné 2 ou 3-0 en faisant exactement la même chose, vos analyses d'après-match auraient été différentes, mais pas la nôtre. Bien sûr, nous devons gagner, mais il n'y a rien de dramatique et nous ne nous sentons pas submergés. C'est une équipe de compétiteurs et elle a été piquée au vif. Parfois, la critique, même injuste, motive beaucoup. Les joueurs sont très piqués dans leur orgueil et je suis sûr que demain, notre visage sera très différent.
Et seguro que mañana, la cara va ser totalement différente.
Ah, ça, c'est
alors,
le
on
débat.
On reste confiant, mais quand même, ouais. ils sont piqués.
Mais ça, c'est le débat qu'on a eu mille fois quand on parlait du PSG de Luis Enrique et les fameuses théories de le collectif. Oui, bien sûr, le collectif, le jeu collectif, l'analyse du résultat ou du jeu. Oui, bien sûr, mais ce que je répète sans arrêt, oui, quand il manque les individualités pour mettre le ballon au fond, la différence, t'as du mal à la faire. Et l'Espagne, ils ont fait un match remarquable, le collectif, il est super, ça tourne, c'est magnifique et tout, mais ce sera mieux quand t'auras la mini mal, quand aura Nico Williams pour percuter sur le côté, s'il retrouve son niveau de 2024, parce que on peut pas dire que derrière ça a toujours été fantastique dans son club, mais oui, à un moment il faut mettre le ballon dedans, oui, il faut des gars qui subliment le collectif. Et l'individualité dans le foot, c'est ce qui a toujours fait la différence. Mais la base collective, elle est parfaite, mais Edgar nous a donné les chiffres. Tu regardes l'Espagne depuis 2010, et même à l'époque, en 2010, quand ils ont gagné la Coupe du Monde et qu'ils ont enchaîné avec l'Euro derrière, mais 2010, regarde le nombre de buts qu'ils mettaient
ils ont
à ce moment-là.
Énormément marqué, ouais.
C'était toujours 1-0, les victoires. Mmh. Ça a été beaucoup plus champagne en 2012. On a beaucoup oublié qu'en 2012 aussi la finale qui a marqué les esprits. Souvent t'as un match qui marque beaucoup les esprits, un peu comme d'ailleurs quand on parle du PSG de la campagne 2025 avec le 5-0 en finale. On avait eu tendance à oublier que parfois aussi ça avait été peut-être un peu plus dur dans les matchs d'avant. Et la finale, elle s'était jouée en grande partie à 11 contre 10 aussi en 2012. Bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais derrière ça a été très compliqué pour l'Espagne dans les compétitions internationales. Le jeu collectif, il était toujours nickel, ça dominait, ça faisait du jeu, t'avais toujours l'impression qu'ils avaient plus d'occasions, qu'ils méritaient méritait largement de gagner. Oui, ok, c'est super. Mais il te faut toujours des mecs pour mettre le ballon au fond, pour faire la différence, dribbler sur le côté, réussir le bon centre, mettre au fond, tout ça. Donc il faut jamais oublier que le collectif seul, c'est pas suffisant. Comme les individualités seules ne suffisent pas non plus.
L'équipe d'Espagne handballeuse, on va dire, c'est vrai que moi je l'ai souvent critiqué dans l'after et ça, dans les grandes compètes. Hein. Mais la différence quand même, c'est que là tu les as. Enfin, je vais parler que d'Yamal. Il existe en tout cas ce facteur X. Oui. C'est-à-dire que la France, par exemple, dans l'Euro, elle a été victime de ce facteur X. C'était un match qui pouvait bloquer l'Espagne et qui pouvait s'avérer effectivement catastrophique, alors que la France n'était pas du tout brillante.
On parle de 2024.
Ouais, 2024.
Mais bien sûr, il y a un monde où la France, en étant dominée tout le long, ils prennent le match quand même.
Donc en fait, le seul truc, c'est que il y a pas que lui d'ailleurs, il y a Nico Jackson, mais quand même il y a mal, je veux dire, tu l'as, il possède, ça n'a pas été toujours le cas à ce point, quoi, on va dire
oui, il faut qu'il soit là,
donc faut qu'il se remette, c'est une compète longue, voilà, c'est pour ça que il y a pas de panique entre guillemets, non. Même par rapport au stade que donne Edgar, mais il y a pas de panique, mais voilà, effectivement c'est sans doute ce genre de joueur qui va te débloquer la situation.
Par rapport à Lamine Yamal, petit point juste sur son état de santé, il est de retour effectivement, il a joué évidemment un petit bout de match face au Cap-Vert. On ne sait pas encore s'il sera titulaire demain et lui a assuré qu'il n'allait pas jouer 90 minutes quoi qu'il arrive. Donc est-ce qu'il va jouer 60 minutes, 45, 30, on ne sait pas. Et lui assure que Nico Williams est un peu plus avancé que
Nico
lui,
Williams, oui.
Même si la presse espagnole la presse espagnole avance que c'est plutôt Lamine Yamal qui est proche d'être titulaire que Nico Williams, ce sera à suivre. Et par contre l'inquiétude elle est plutôt pour Victor Muñoz. Vous allez me dire on s'en fiche de Victor Muñoz, mais non, parce que c'est les remplaçant numéro 1, on va dire, en termes de profil. Et lui, pour l'instant, il n'est pas apte encore vraiment à jouer. Et ça, c'est une inquiétude, surtout quand Jérémy Pinault, ton autre ailier, visiblement, il n'a pas la confiance de De La Fuente, puisqu'il n'est même pas rentré en jeu sur le premier match, alors que tu avais trois autres ailiers qui étaient blessés. Donc, il y a une vraie question sur l'aptitude physique des ailiers dans cette équipe.
Moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe se positionne en tant qu'ultra favorite, eh bien, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Et ça a été le cas avec les Espagnols. Et là, j'ai envie de donner du crédit à Deschamps, hein, qui essaie justement de dédramatiser et d'envoyer la pression sur les autres équipes, même si la France est aussi ultra favorite, voilà. à mon humble avis.
La France, ils ont l'argent dans les favoris.
Exactement, mais bon, tu vois comment sont positionnés les Espagnols, et en fait, dès qu'il y a une contre-performance, on leur tombe dessus. Moi, je suis pas trop inquiet hein, pour ces Espagnols, et particulièrement par rapport à ce que vous avez dit et ce que Daniel a dit, c'est-à-dire que quand Yamal va revenir et éventuellement Nico Williams, je pense que voilà, ça va être une équipe qui sera complètement différente, qui va avoir énormément d'explosivité sur le côté, de la profondeur, et puis surtout beaucoup de talent. Donc voilà, et puis ils sont dans un groupe qui normalement sont relativement abordables. Enfin, je veux dire l'Arabie Saoudite, même si l'Uruguay, ça reste
pas mal. Oui, mais demain,
mal,
Arabie Saoudite, c'est même profil. C'est hein. Ça va être tout le monde derrière. Oui, ça va être le béton. Ça va être le même profil de match que les Espagnols ont l'habitude de faire, qui peut devenir très chiant. Ils feront rien d'autre.
Hein, l'Arabie Saoudite est pas moins forte que le Cap-Vert, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, non, ils vont faire le même genre de match. Ils vont essayer de les avoir de la même façon.
Le Cap-Vert, ils ont essayé de jouer. Pour moi, le Cap-Vert est meilleur que l'Arabie Saoudite, au passage.
Oui, mais ils vont faire la même chose.
Après, il faudra aussi que Luis de la Fuente il fasse des meilleurs choix pendant le match, parce que moi je comprends pas comment. Alors on avait déjà parlé de la composition de départ, mais je comprends pas comment tu joues face à un bloc bas. T'as un seul neuf qui joue en pivot, on va dire, ou qui peut jouer en point d'appui, qui est Borja Iglesias. Tu le fais même pas rentrer. Donc quel est l'intérêt de prendre Borja Iglesias si tu le fais pas rentrer dans un match face au Cap-Vert où t'arrives pas à marquer et tu joues face à un bloc bas et qui peut te mettre une tête? C'est quand même surprenant. Et il y a eu plusieurs choix qui étaient surprenants dès la compo de départ, ensuite dans l'analyse du match où il a beaucoup tardé à faire des changements. Et j'espère aussi pour les Espagnols que Luis de la Fuente a appris de ce match, parce que c'est aussi un sélectionneur qui fait sa première Coupe du Monde et qui peut apprendre comme tous les autres. Et j'espère qu'il a appris de ce match et qu'il fera des changements différents et des choix différents dans sa composition de départ aussi.
Bon, sinon, bon, je sais que t'es pas très proche de l'actu du Real en ce moment, mais ils vont craquer leur portefeuille sur Olysée ou pas?
Bah, écoute,
le Bayern dit non, de toute façon, il est pas à vendre, genre il a pas de prix.
Bah. Oui, mais même le Real Madrid communique sur ça en disant non, on n'a pas contacté le joueur. Il y a un respect par rapport au Barça, par rapport au Bayern. Je pense que c'est de la communication et pour montrer que le Real et le Bayern, c'est deux clubs à part, etc. Est-ce que ça peut être un intérêt pour le Real? Oui. Est-ce que ça va se jouer pendant la Coupe du Monde? Ça m'étonnerait très fortement. Après, c'est toujours pareil. Ils ont déjà dépensé de l'argent, en tout cas au moins sur le salary cap avec les joueurs qu'ils ont recrutés sur certains frais de transfert. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont 250 millions à mettre sur Olysée? Et surtout, est-ce que c'est la priorité pour le Real Madrid d'aller chercher Olysée? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a d'autres joueurs à faire avant. Maintenant, évidemment, il y a un tel déséquilibre dans cette équipe que
surtout un président qui est complètement taré. Donc, à tout moment, il est, ouais, il est capable d'enchaîner à 250 millions. Après, le Bayern le laissera sûrement pas partir.
Je sais pas si les moyens financiers du Real sont si importants.
Ouais, il trouvera l'argent, t'inquiète pas. Ouais, pour faire un coup comme ça.
Ouais, mais il l'a pas trouvé sur les dernières années. Après, l'intérêt
d'avoir Olise,
Boucher.
Après, concernant Olise, je pense qu'il a tout à gagner à rester au Bayern. On en a parlé hier. Déjà, pour continuer à prendre des titres, pour continuer à évoluer. Et puis, il a un super entraîneur qui s'appelle Vincent Kompany. Enfin, il a tout à gagner à rester au Bayern.
Et vu les incertitudes qu'il y a dans la reconstruction, on va dire, madrilène, là où il a de la stabilité.
Sacré chantier, tu vas arriver, tu vas jouer avec Mourinho pendant un an. Après, ça va être le saut dans l'inconnu encore. C'est compliqué quand même pour se projeter. Et au-delà de ça, l'intérêt de recruter Olise avant de gérer d'abord le départ de certaines stars, il y en a pas pour moi. Et je pense que si jamais tu dois recruter une
Real,
star,
moi je vous dis la situation n'est pas réglée.
C'est que tu lâches quelqu'un, c'est que tu lâches Vinicius ou quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Et moi je suis surpris d'ailleurs, mais je pense que ça viendra aussi et que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde, ça ralentit aussi les choses. Qu'il n'y ait pas eu de départ côté Real Madrid, si ce n'est les joueurs qui étaient en fin de contrat.
Ouais, t'as ta réponse, c'est la Coupe du Monde qui bloque.
Si tu recrutes. Bien sûr, mais si tu recrutes autant de joueurs, il va falloir aussi faire le tri, parce que là, c'est pas possible, il y a un embouteillage énorme, ne serait-ce qu'avec les joueurs qui sont déjà arrivés, et je pense que c'est pas fini.
Merci Edgar, bonne soirée. Bonne nuit.
À très vite.
Salut Edgar.
Je voulais vous donner des nouvelles de la fédération sénégalaise. Alors, on expliquait hier que les joueurs étaient pas contents de l'hôtel, que certains se faisaient venir de leur repas de l'extérieur, pas contents également de la restauration à l'hôtel, que Pape Thiaw n'a toujours pas de contrat, que depuis la fin de la CAN, eh ben, il bosse gratos, il est pas payé, ben, il a pas de contrat, il est pas payé.
Pour la beauté du foot.
Peut-être. Donc, il y a pas mal d'histoires. Il y a un nouveau président à la fédération sénégalaise depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est contesté. Toutes ces infos qui sont sortis hier dans plein de médias, dont RMC, ont fait bouger les choses. Et apparemment, l'État sénégalais au plus haut niveau a dit, mais attendez, arrêtez de nous foutre la honte, là, vous la faites. Donc vous allez faire un contrat à Pape Thiaw, parce que c'est ridicule. Et donc, vraisemblablement, là, en fait, ils veulent régler tout ça avant demain. Et la conférence de presse de veille de match du Sénégal face à la Norvège, parce qu'ils se disent, sinon, en fait, évidemment que tout le monde va ne parler que de ça à Pape Thiaw, ce qui effectivement risque d'arriver. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il faut que les infos sortent pour que la fédération sénégalaise se dise, ah bah tiens, oui, finalement, on va peut-être s'en occuper du contrat de Pape Thiaw. C'est fou. Hein.
Bah, ils ont beau dire que il y a que le Sénégal-Norvège qui les intéresse, peut également dire qu'il y a souvent ce genre de contexte en Afrique. Moi, j'aimerais bien surtout qu'on en sorte pour une fédération importante, pour un pays qui est champion d'Afrique, qui veut s'inscrire dans le concert des nations comme une équipe plus forte maintenant et qui prétend à des choses. Ce serait bien qu'on tombe pas dans ces petites histoires un peu à l'ancienne et tambouille là, et qu'on sorte vite de tout ça, parce que si c'est sorti, c'est que forcément du côté de Pape Thiaw, on n'était pas content et on avait intérêt à ce que ça sorte.
Ça fait des semaines qu'il n'est pas
fasse,
content.
Et qu'on fasse envoyer le message. Ouais. Si on atténue de l'autre côté, c'est parce qu'à la fédé sénégalaise, on dit mais non, attendez, c'est pas si grave que ça. Il y a pas de bordel chez nous, tout va bien.
Je sais pas qui dans le foot travaille gratuitement et sans contrat.
Évidemment, mais je redis que si c'est sorti d'un côté, c'est que Pape Thiaw a intérêt à ce que ça sorte.
Je ne sais pas le dire.
Et s'il y a eu un bémol de l'autre côté, c'est que la Fédé a pas envie que ça fasse de vagues. Et au milieu, il y a une Coupe du Monde. Je pense que ce serait quand même mieux pour le Sénégal tout entier, qu'on retrouve vite et qu'on se remette vite la tête sur les épaules pour régler ce genre de soucis quand même.
C'est marrant parce que le Sénégal a ou avait maintenant la réputation d'avoir la fédération la mieux structurée, la plus efficace, la plus lisible. Et ben voilà, et puis pam, tout à coup, t'as les vieux démons là qui ressortent.
Tu vois, je parlais tout à l'heure des cadors africains des trois.
Le fonctionnement qui datait des calendes grecques.
J'ai cité Maroc, Côte d'Ivoire et Sénégal, et je me dis que tu vois, ce qui est terrible, c'est si ce genre de problème interne plombe une équipe qui sur le terrain pourrait avoir la possibilité d'aller loin. Là, c'est terrible. Tu vois, si dans ce cas-là, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont mieux structurés et s'en sortent mieux grâce à ça, je trouve que pour les supporters sénégalais, c'est vraiment des vieilles, comme tu dis, les vieux trucs que t'entends depuis des années, dont tu te dis c'est pas possible pour une équipe qui a gagné quand même la Coupe d'Afrique.
Il y a aussi une sorte de prime non réglée pour les joueurs, par ailleurs.
Oui, il y a pas que ça.
Et c'est ce que je déplore. T'as raison. C'est vrai que on le disait un peu plus tôt, les nations africaines qui font quand même bonne figure sur le terrain, c'est vraiment dommage que derrière les fédérations ne suivent pas, ce qui n'est pas le cas apparemment avec le Maroc. Je parlais justement avec un joueur, apparemment ils ont même payé pour toutes les familles les billets d'avion depuis n'importe quelle adresse d'où chacun vivait, à hauteur de 2 ou 3 personnes me semble-t-il, pour les suivre pendant toute la compétition. Donc c'est très honorable de leur part et visiblement ça a l'air d'être bien organisé du côté du Maroc.